Et puis nous, on va commencer avec le procès Benalla qui vient de s'ouvrir. Souvenez-vous comment Emmanuel Macron s'était adressé à la presse au tout début de cette affaire.
Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu'il n'y avait plus de présomption d'innocence dans la République et qu'il fallait fouler aux pieds un homme et avec lui toute la République.
Le livre de Paul Larouturou paraît au tournant du quinquennat. Nouvelle échéance présidentielle, bilan évidemment, mais pas seulement. Pile au moment où, plus que les journalistes et les citoyens, la justice demande des comptes à ceux qui ont incarné le pouvoir. Alexandre Benalla au tribunal en ce moment même. Agnès Buzyn mise en examen. Plusieurs ministres sous le coup d'une information judiciaire pour, je cite, « abstention de combattre un sinistre ». Extrême tension donc entre la lecture des 5 années passées et la projection des 5 années à venir, car Emmanuel Macron sera candidat, on n'en doute pas. Élysée confidentielle, une galerie de portraits et de confidences pour tenter de recomposer le cœur du pouvoir. Ceux qui en sont, ceux qui en étaient, ceux qui sourient, ceux qui en reviennent carbonisés, déçus, aigris. Avec cette question que se posent tant de journalistes, peut-on raconter l'infiniment grand à travers l'infiniment petit, le collectif à travers une poignée d'individus, le président par ceux qui s'en approchent, l'histoire par l'anecdote, l'événement par la coulisse.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Mon invité s'appelle Paul Larouturou.
Non, Larouturou, il y a de presque.
Paul Larouturou. Mince!
C'était presque. Paul Larouturou, mais presque.
Bonjour Paul.
Merci pour ces mots. Bonjour Sonia Deler. Merci beaucoup de m'inviter. Merci pour ces mots d'introduction.
Alors, Élysée confidentielle paraît chez Flammarion. Il est ce livre scandé, publié avec un beau papier.
Ouais. Photos d'Eliott Blondet.
Voilà, qui sont superbes, qui est encore plus jeune que vous. Il a 27 ans. Il est photographe de presse. Je rappelle, Paul Larouturou, que vous êtes tous les soirs à 20h40 le reporter de Rutel Krief dans la tranche du soir sur LCI. 22h. Je voudrais rappeler quand même que ces dernières années, vous étiez une figure du magazine quotidien sur TMC. Voilà, que vous avez suivi la campagne d'Emmanuel Macron. Donc tout ça n'a pas commencé de nulle part. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une minette ?
je sais pourquoi vous me posez cette question-là. Alors effectivement, j'ai la chance d'avoir travaillé 7 ans pour Yann Barthès et Laurent Bon, que je remercierai jamais assez. Et j'ai eu la chance ils m'ont offert une vision de la vie, enfin un poste d'observation de la vie politique extraordinaire. Et effectivement, j'ai suivi Emmanuel Macron je l'ai vu débarquer secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie qu'on a beaucoup suivi. Et puis j'étais sur le pont de Bercy quand il est parti comme ça déposer sa démission. Et donc je l'ai suivi partout. Et au cours de la campagne,
il vous reconnaissait, il finissait par vous connaître.
Je fais partie de ceux qui l'identifient. On est nombreux, mais j'en fais partie. Ouais.
Et on va réfléchir sur cette espèce de complicité qui est née au fur et à mesure, sorte de jeu politique et de jeu médiatique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une minette ?
Et au cours de ces interviews, donc je l'ai interviewé, je crois que c'était au début de la campagne, et au milieu, on était à l'intérieur, il faisait sombre, et je crois que c'était à Lille de mémoire, et avec Yann Acosta, et on l'interview, et tout à coup, le spot tombe. Le spot au-dessus de la caméra qui éclaire tombe en panne. Et je dis à Emmanuel Macron, vous avez l'instant, c'est ça. Ouais.
Désolé, pardon, on a un problème de minette. On est pour une minute. Qu'est-ce qui se passe?
Un problème de minette.
C'est le nom du, c'est le nom du spot. Donc, c'est le nom de.
C'est bien, mais on peut en parler si vous voulez.
c'est bon? On recommence. On sent qu'il le retient, ce mot minette.
Vous avez,
on nous a appris un mot hier, effectivement, avec la minette qui est tombée. Et c'est pas fini, 2 mois plus tard, dans un train pour Bordeaux, la télé allemande lui fait remarquer qu'il transpire, Emmanuel Macron.
C'est la minette.
Vous avez joué et l'un et l'autre cette complicité quotidien, l'émission jeune, branchée, très regardée. Ouais. Il vous a chouchouté?
C'est une excellente question. C'est à la fois une complicité parce que je fais partie encore une fois. On est nombreux de la presse présidentielle, des gens qui l'accompagnent. On traverse la France, parfois le monde. Donc évidemment, il y a une relation humaine, mais c'est quand même avant tout toujours un rapport de force, quoi. Et il est le pouvoir et je fais partie des gens qui font partie du contre-pouvoir. Donc c'est un mélange des deux.
Le soir du premier tour de la présidentielle, vous êtes devant un restaurant parisien qui s'appelle La Rotonde.
Monsieur Macron, La Rotonde, c'est votre Fouquet's?
Cher ami, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui modestement depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez. Mais je crois qu'au Phuket, il n'y a pas beaucoup de secrétaires, pas beaucoup d'officiers de sécurité. Vous les connaissez, vous m'avez accompagné partout. Vous avez vu qui était ici à table. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien.
Paul Larouturou, je vous pose vraiment frontalement la question. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron s'est servi de quotidien d'abord pour soigner son image de cool avec la minette et ensuite pour se donner une image populaire en tapant sur l'élite médiatique? Ça fonctionne toujours?
C'est une excellente question, évidemment, on se l'est énormément posé.
Bah ouais.
Je vais essayer de ne pas vous faire de langue de bois et pas de faire une réponse de Normand ni l'un ni l'autre. C'est évidemment... on a fait partie au début des gens qui l'ont couvert, et je l'assume, au début on a senti le potentiel électoral tout simplement en traitant un candidat, et après il me semble, je l'espère, qu'on était à la bonne distance, c'est-à-dire j'ai aucun problème à rigoler sur les minettes, et en même temps à poser, vous l'avez dit là en l'occurrence c'est la rotonde, mais il y a d'autres, je vais poser notamment la question Benalla lors d'une conférence de presse, enfin, on est nombreux à quotidien à s'être relayés pour essayer de poser les questions qui grattent, quoi. Donc encore une fois c'est un rapport de force permanence qui n'empêche pas à certains moments un peu de légèreté.
Ouais.
Voilà.
Alors cette soirée, elle est clé, la soirée de la rotonde, elle revient.
Il saisit le bras, ça se voit pas à la radio, mais il était vraiment énervé.
Voilà, et elle revient dans le livre,
bien
Élysée confidentiel. Évidemment, il y a les mots et il y a l'image. C'est-à-dire, quand on voit les images que vous avez tournées, à travers la vitre de la rotonde, on voit pas une secrétaire, on voit Stéphane Bern avec une coupe de champagne. Vous reparlez de cette soirée avec Christophe Castaner, qui à l'époque n'était pas encore ministre de l'Intérieur.
Tout à fait.
Et qui vous raconte que lui, il arrive tard, qui traverse le restaurant et qui dit cache à Emmanuel Macron. C'est une énorme erreur en termes d'image.
Exactement. Vous remarquerez que dans le livre, je ne cite pas justement cette citation parce que c'est très différent le livre de mon exercice télévisé. Donc je ne dis pas que j'interroge Emmanuel Macron là-dessus. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que Christophe Castaner, qui nous fait des vraies confidences, un livre de vraies confidences politiques, qui a rien d'intime, mais c'est juste poétique, il est sur le plateau justement de Rotel Krief, qui lui dit, qu'il entend le mot retour de Fouquet. Déjà, il arrive et moi je le vois à travers la vitre et je vois son visage qui dit à Emmanuel Macron, c'est une mauvaise idée, t'aurais pas dû. Enfin, j'ai pas le dialogue, mais je le devine. Et il me confiera, Christophe Castaner, qui lui avait dit à l'époque, est-ce qu'Emmanuel Macron mettra beaucoup de temps à reconnaître.
Ouais, que c'était une énorme erreur, c'était trop tôt pour fêter la victoire. On était,
c'était
le soir
du premier tour.
Et puis ça rappelait le Fouquet's, c'était la soirée de la victoire présidentielle de Nicolas Sarkozy. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est la question de la bulle, puisque vous, c'est votre entrée, c'est votre sortie, c'est qui fait partie de la bulle de l'Élysée.
Exactement.
On va voir que vous y mettez pas tout à fait ce qu'on y attend dans cette bulle. Et vous dites, pour commencer, enfin dans le portrait de Sibeth Ndiaye, les vrais proches d'Emmanuel Macron se reconnaissent à l'énergie qu'il déploie pour vous faire croire le contraire.
C'est vrai.
Et il y a un repoussoir, c'est Alexandre Benalla, justement, qui est au tribunal en ce moment, qui n'a fait que se vanter de sa proximité avec Emmanuel Macron.
Merci pour cette question. Alors, en l'occurrence, il y a le contraire d'Alexandre Benalla, c'est Jean Gabory, qui a occupé exactement les mêmes fonctions. Alexandre Benalla, je l'ai connu, j'ai un point commun avec votre invité de vendredi, c'est que je ne hurle jamais avec les loups, avec la meute, donc là, il n'y a pas besoin d'en rajouter sur Alexandre Benalla, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui avec moi a toujours été très courtois, et à un moment, il a vrillé. D'abord, il a fait une bêtise, et puis après, il pense qu'il est un peu tombé dans la provocation, etc. Il est un peu devenu un troll du quinquennat à son corps défendant, mais à l'intérieur du livre, il y a un portrait de Jean Gabory, qui a occupé exactement les mêmes fonctions, conseiller aux affaires privées d'ailleurs, et il me fascine.
Et lui, que personne ne connaît.
Personne ne connaît. Et ce qui me fascine, c'est qu'il est. Donc il a le même poste, et en fait, quand il arrive au sommet du pouvoir, il part parce qu'il a l'impression de se perdre. Et il vient, lui, d'un petit village à côté du Puy du Fou, et je trouve que le dialogue entre l'histoire d'Alexandre Benalla, qui d'actualité aujourd'hui, et ce que nous raconte Jean Gabory dans les confidences qu'il fait, de ce qu'il dit au cœur du pouvoir, moi ça m'intéresse beaucoup, le pourquoi à certains moments on vrille, et pourquoi à certains moments on est blasé.
C'est plein d'histoires de gens qui vrillent, ce petit livre Élysée confidentiel, c'est plein de gens qui se brûlent en approchant le pouvoir. Vous racontez par exemple brièvement Marie Tanguy, plume version martyr, intitulez-vous ce portrait. C'est l'histoire d'une jeune femme brillante, la gauche elle y a cru.
Exactement.
La gauche elle y a cru.
Elle a cru à un nouveau Rocard, et à la fin elle a pris de droite.
C'est ça. Et surtout, elle finit en burn-out total.
Ouais.
Elle est au fond pas taillée pour ça, pour ce rythme-là.
Pour cette violence qu'elle raconte très bien de l'intérieur. C'était une expérience brève, mais elle incarne, comme vous le dites, une forme d'électorat qui a vraiment cru qu'Emmanuel Macron serait un président de gauche. Et à la fin, il y a un autre conseiller qui m'a dit une phrase incroyable. Il m'a dit, un conseiller influent qui m'a dit, c'est la première fois dans l'histoire de la 5e République qu'un président de la République change de majorité en cours de mandat. Et ça me semble vrai. Marie Tanguy, elle incarne à la fois la violence en politique et aussi, encore une fois, cet électorat qui a cru qu'il y avait un conseil de gauche et qui, à la fin, a un président de droite ou une espèce de Giscard.
On va en parler avec Aurélien Taché parce que ça, c'est vraiment l'exemple clé de ce changement de cap. Mais juste un petit détail, il y a quand même Sibeth Ndiaye qui vous dit Emmanuel Macron, il s'aime pas en photo. Donc ça, il sent aucun narcissisme, c'est pas du tout un problème. Mais il devient très narcissique quand ça concerne ses écrits. C'est l'enfer d'écrire ses discours.
C'est vrai. Ouais. Et c'est, je remercie Sibeliane pour sa confiance. C'est-à-dire que c'est à moi qu'elle dit, j'assume de mentir pour protéger le président. C'est une phrase qui lui a été extrêmement reprochée. C'était au Touquet parce qu'il faisait du tennis. Et justement, j'ai toutes les choses dont on a déjà entendu parler, je les ai mis à la poubelle. Et j'ai vraiment essayé, là, Sibeliane Ndiaye, elle fait des vraies critiques politiques sur ce qu'elle reproche au président de la République de l'intérieur. Elle dit qu'il met du temps, notamment à trancher parfois ce qui la rend folle, ou la critique que vous venez de formuler. Et vraiment, ce degré de confiance qu'on a avec une Sibeliane Ndiaye, avec un Christophe Castaner, on est très heureux d'essayer de la porter. Voilà,
alors, rappelez qui est Aurélien Taché.
Alors, Aurélien Taché,
parce que dans le genre victime expiatoire, il est parfait.
Alors, Aurélien Taché est donc un député, élu avec la vague Macron, triomphalement, qui était un spécialiste des questions de pauvreté. Et il raconte très bien comment, quand il est arrivé face à Emmanuel Macron, il a eu l'impression qu'Emmanuel Macron allait régler tous les problèmes des bidonvilles à Paris, 4 heures en face à face, ils ont coupé les téléphones et à la fin, il a été vraiment embarqué avec lui. Et donc, je me suis amusé tout simplement à lui montrer les tweets où à l'époque, il était Aurélien Taché, il était tout feu, tout flamme, quoi. Et en fait, il n'entre pas au gouvernement, il en conçoit une forme d'amertume. Et puis, là, il a quitté avec perte et fracas la majorité présidentielle, il le critique. Et il y a un moment.
Alors, avec perte et fracas médiatique, moi, évidemment, j'anime une émission où on essaye d'analyser la sphère médiatique. Donc, du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Ouais. Écoutez, Aurélien Taché, où là, le moment où il commence à vriller, puisque c'est vous qui utilisez le terme.
Là, on a toute une série de mesures qui sont assez étonnantes. On a des choses qui vont de la polygamie, par exemple. Alors, c'est assez étonnant que l'État se mêle de ce genre de choses. On sait que la société française est plurielle, diverse. Enfin, je veux dire, on va maintenant aller regarder combien il y a de personnes sous la couette chez les gens. C'est ça les lois que on va faire voter au Parlement. Tout ça est très surprenant. Il y a une volonté d'affichage politique.
Aux invités en plateau, parce que vos propos sur la polygamie ont fait bon dire, notamment Éric Challe.
Voilà, mon invité s'appelle Paul Larouturoux et justement, vous êtes allé le rencontrer, bien Aurélien sûr. Taché.
Alors, il reconnaît, c'est une énorme erreur. Il le dit très... Et mon passage préféré dans ce chapitre, Monsieur Pauvreté, le président des riches, c'est quand il dit « J'étais à Calais avec le président de la République, je l'ai trouvé beau dans son costume et je n'ai pas osé lui dire ce que je voulais sur les migrants, sur les problèmes de pauvreté. »
Moi, mon passage préféré, c'est quand Aurélien Taché vous confie qu'il les a alertés. Il y a un moment, il leur a dit « Je fais trop de télé, je fais trop de radio, je vais trop souvent au micro, je suis en pleine surchauffe. » Et ça, personne ne l'entend.
C'est vrai, vous avez raison.
Et au fond, c'est ce que raconte un peu ce livre, c'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à être en pleine surchauffe. Castaner se met à dire n'importe quoi au micro. Sibeth Ndiaye reconnaît qu'elle a fait un nombre de bourdes qui risque même de lui valoir de la prison ou une amende.
Bien sûr, elle a une perquisition dans... Bien sûr.
Voilà, c'est ça. Et ça raconte aussi cette machine à laver médiatique.
Bien sûr, mais c'est ce que racontait Yann Barthès à votre micro il y a quelques jours, quand Laurent Maccabiès du Morning Glory a compté qu'il y avait un incroyable nombre, 140 interviews poétiques. Donc évidemment, il y a trop de micros ouverts et donc à l'intérieur, il y a beaucoup aussi de bêtises qui s'en disent. Et puis, ce qu'on essaie de raconter très modestement avec Ayotte Blondet, il y a une ivresse aussi peut-être du pouvoir.
C'est ça.
Bien sûr qu'on a très fortement ressenti en 2018 et Alexandre Benalla en est l'incarnation.
Ouais. Alors il y a un portrait assez étonnant, Arnaud Jolens, je prononce bien son nom, il est scénographe, personne ne le voit, personne ne l'entend, personne ne le fait parler. Cet homme fabrique les images du quinquennat en réfléchissant de manière obsessionnelle et perfectionniste à la mise en scène de chaque événement. De la moindre allocution, on va dire, à la panthéonisation, c'est-à-dire à ces grandes cérémonies dont Macron fait manifestement des espèces de messes républicaines.
Tout à fait.
Alors évidemment, ça commence par la soirée de la victoire
la
pyramide du Louvre. C'est quand même quelqu'un qui coordonne les couleurs, les décors, les déplacements de
moindre détail.
Voilà. Il vous dit un truc assez fascinant quand on réfléchit à la fabrication des images. Il vous dit qu'aujourd'hui, il fabrique des décors à 360 degrés parce qu'on ne sait jamais d'où va venir l'image.
Exactement. On est très heureux avec Elliot d'avoir le premier portrait d'Arnaud Jolens. On l'a vu aussi à Marseille. C'était, vous savez, là, il y a 2 semaines, derrière, on voyait, enfin, il y avait un énorme panorama derrière parce qu'il pense caméra, évidemment, mais il pense aussi smartphone désormais.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement les emplacements des photographes à anticiper, mais il y a.
Chaque personne du public produit des images.
C'est
comme ça qu'il pense.
D'ailleurs, vous dites, quand on est journaliste accrédité pour suivre Macron, on est toujours pris entre le marteau et l'enclume. Entre les images fabriquées par la présidence, ça c'est le marteau, on va dire, et l'enclume, vous dites, c'est toutes ces images d'amateurs qui nous arrivent de partout.
Exactement, il y a une vraie tentation très profonde de l'Élysée, avec qui, encore une fois, il y a des rapports de travail, enfin, j'essaie de pas noircir la situation, de rester le plus subtil possible, humblement, Donc ça se passe bien, mais il y a quand même une tentation profonde de nous remplacer par leurs propres images. Ils font du TikTok, ils font du Facebook Live, je raconte dans le livre ces moments où nous n'avons pas du tout accès au président, mais vraiment pas du tout, et où on est obligé de traiter les images produites par la présidence de la République, ce qui est un problème démocratique. Et de l'autre côté, la gifle d'Emmanuel Macron, moi j'étais sur place, mais j'ai eu la chance de parler avant à le monsieur qui l'a giflé, ça c'est la chance de reporter vraiment, mais au moment
c'était un des scoops de quotidien à ce moment-là.
Au moment T, il y avait pas une seule caméra, quoi. Parce que l'Élysée avait fait en sorte, l'Élysée ne savait pas qui allait se faire gifler, ils ont pas fait en sorte de cacher ça, je les accuse pas du tout de ça, mais j'ai juste que ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire la caméra qui envoie toutes les images, elle était en transit, et comme il sectionne énormément les séquences, c'est impossible de suivre en permanence, et donc, effectivement, entre le marteau et l'enclume, c'est compliqué.
D'Arnaud Jolin, c'est quelque chose qui revient aussi dans les portraits souvent, c'est de protéger le président.
Ouais.
C'est donc de faire en sorte qu'il n'y ait aucune image. Donc, image, en fait, j'y avais pas pensé. Aucune image du président malade, du coronavirus.
Aucune
image.
Du vaccin non plus.
Ouais, c'est ça.
Non, j'ai fait la liste de toutes les choses qu'on n'a pas vues, qu'on aurait aimé voir. Il y a un moment très important dans le quinquennat, c'est quand il va à la préfecture du Puy-en-Velay, aussi ce que Sibeth Ndiaye me raconte. Il n'y a pas une caméra.
Il est terrifiant ce récit.
Ouais, ça fait peur. Ouais. Notamment, il y a une image qui est très visuelle, même à la radio, je l'espère, c'est quand elle raconte que dans la préfecture calcinée, avec des gens qui ont eu peur de mourir, avec des gens qu'ils connaissent, ils s'éclairent avec les lampes torches des téléphones, et ça sent encore le cramer, puis on se souvient qu'il sort. Il sort de la préfecture, il se fait huer, mais il n'y a pas un journaliste avec lui. C'est quand même dingue quand on y pense, non?
C'est ça. Alors, dans le genre meute médiatique et phénomène médiatique qui finit par échapper au président, vous avez retrouvé Jonathan Jahan. Jahan, c'est ce monsieur horticulteur, chômeur, qui interpelle le président, qui lui dit « Mais moi, j'envoie mes CV partout. » Le président lui répond « Eh oh, ça va, c'est pas la peine de m'en parler à moi. Il suffit d'aller à Montparnasse, de traverser la rue et il y a du boulot. » Vous n'êtes pas le seul à l'avoir retrouvé. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incroyable de médias qui sont venus lui parler.
Avec vos CV, vous êtes parti à la recherche d'un emploi à Montparnasse?
Oui.
Vous êtes arrivé sans caméra, sans le président à votre côté. Vous avez distribué à des restaurateurs, quoi?
Je leur ai dit bonjour, je viens distribuer un CV, lettre de motivation. Est-ce que c'est possible de me proposer un poste en tant que plongeur ou autre? Et ils m'ont répondu, on vous rappellera si on a besoin. Et avec caméra, ils ont dit oui, pas de problème.
Voilà, Libération le lendemain avait titré sur le président méprisant. Mmh. Et la semaine suivante, ce Jonathan est contacté par Europe 1, BFM, M6, France 5. Mmh. Tout le monde veut le voir filmer en train de distribuer ses CV à Montparnasse.
Exactement. Mmh. Et ça marche pas pour lui. Et donc nous, c'est pour ça qu'avec Elliot Blandet, on avait vraiment très envie de le retrouver, de parler de sa vie, déjà le long chemin. On décrit déjà les mondes qui se rencontrent pour rentrer dans la bulle Macron, dans la présidence de la République. On raconte le trajet, il vit à Bonne-la-Rolande, c'est juste l'autre bout de... Enfin, c'est très loin, quoi. Et après, on raconte qu'au début, il est tout content, on publie un selfie qu'il a mis sur son Facebook, évidemment avec son accord. Et puis la fameuse phrase, je traverse la rue, je trouve un travail. Et puis surtout, on raconte la suite pour lui, ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, il est dans la galère, vraiment. À cause du Covid, il a essayé de faire une formation en restauration et il n'y arrive pas. Et on le remercie encore une fois pour sa confiance. Il nous raconte vraiment, moi il m'a touché. Il y a une phrase à la fin, il dit, le président Macron, il dit pas il m'a bâché, il dit pas il m'a taclé, il dit il m'a bâclé. Et je trouve ce mot très vrai, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron... Pardon.
Non, bah allez-y, ça faisait une très belle chute.
Ah ok, bah je m'arrête. Si c'est une très belle chute, je m'arrête là alors.
Merci beaucoup, Paul Larouturou. Élysée Confidentielle vient de paraître chez Flammarion avec les photos d'Eliott Blondet.
C'était
merci.
C'était un honneur et un bonheur d'être à votre micro. Merci,
Sonia de Villers. Merci d'avoir été notre invité. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonia de Villers. Ce matin, une émission qui va vous intéresser. Pourquoi l'amour est aussi une affaire de chimie? On s'intéressera aux mécanismes biochimiques de l'amour. Coup de projecteur sur la fameuse hormone de l'attachement, l'ocytocine. Toutes vos questions sur l'ocytocine, je suis sûr qu'il va y en avoir des milliers au 01 45 24 7000.
Salut Ali.